13h41, pendant 20 minutes encore, on va évidemment décrypter l'actualité avec vous, 01 80 20 39 21, et avec Charlotte Dornelas et Georges Fenech. Et je voulais vous parler maintenant de ce projet de loi sur l'aide à mourir, qui est donc présenté ce matin en Conseil des ministres. Les débats doivent débuter à l'Assemblée nationale le 27 mai. Alors, le gouvernement avance, on peut le dire, à pas feutré sur ce sujet. Elle revendique l'équilibre, mais le texte, on peut le dire aussi, ne satisfait ni ses partisans, ni ses opposants. On va prendre Nicolas, qui nous appelle, qui nous écoute dans le Nord. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas, vous êtes avec nous en direct dans Europe 1 13h, merci.
Merci, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
Vous souhaitiez réagir sur ce projet de loi sur l'aide à mourir.
Oui, ce projet de loi, il m'interpelle... Et je suis contre parce que je suis à deux titres potentiellement concernés. J'ai un enfant porteur de handicap qui pourra jamais faire valoir son discernement. Il souffre d'autisme et de trisomie 21. Et moi-même, j'ai une sclérose en plaques. Alors concernant mon enfant, si la loi passe, lui pourra pas choisir sa fin de vie. Si sa fin de vie est difficile, douloureuse, il pourra pas. Moi-même, étant atteint de sclérose en plaques, comme c'est pas une maladie mortelle, je serai jamais, je vais pas mourir de cette maladie. Par contre, je vais être probablement muré
Oui.
Et je pourrai pas solliciter ça. Alors, vous allez, on va dire.
Vous trouvez que ce projet de loi est injuste?
Oui, il est injuste parce que cette injustice, elle va forcer le législateur à adopter des nouvelles dispositions du genre les personnes qui sont pas dont la pathologie n'est pas mortelle comme la sclérose en plaques pourront quand même se solliciter quand ils jugeront que leur vie est indigne. Et puis pour les personnes handicapées comme mon fils, ça sera leur tuteur ou leur curatelle qui pourra dire maintenant cet enfant se frappe, il se mutile ou cet adulte, ça devient insupportable et donc voilà. Et on va faire comme en Belgique où il y a une dizaine d'années le premier verrou a sauté et puis de proche en proche tous les verrous suivants sautent et on finit par accepter l'euthanasie d'adolescents, de personnes dépressives, de personnes âgées sous curatelle qui sont euthanasiées par leur famille pour récupérer des biens. Enfin,
Ça vous choque que l'on parle de dignité dans le cadre de ce texte de loi?
Moi, c'est le terme de fraternité qui a été utilisé. La dignité aussi, parce que c'est quoi une vie digne? La vie est digne dans le regard de l'autre, et c'est tout. Nulle vie n'est indigne du fait de la souffrance ou de la maladie.
Merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage. Une réaction peut-être, Georges Fenech, Charles Dornelas, sur ce témoignage.
C'est très, très douloureux ce qu'on vient d'entendre, cette situation du père et de son fils qui a toute notre sympathie.
Je pose la question du discernement qui est important.
Oui, bien sûr, le discernement, on l'avait déjà abordé lors de la première loi qui a posé des jalons, la loi Claeys-Leonetti. Mais c'était en fait... À cette époque-là, la loi telle qu'elle était dictée, la possibilité d'administrer des produits de sédation
profonde,
lorsque la personne était en grande souffrance, etc. On parlait d'acharnement déraisonnable. Voyez-vous. Là, on franchit un palier qui est énorme. C'est plus des produits sédatifs, c'est des produits létaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on va provoquer la mort, qui sera pas naturelle, mais on va provoquer la mort. Donc le débat va être extrêmement difficile, il va falloir, je crois que le débat va durer jusqu'au mois de mai de l'année prochaine.
27 mai.
Ça, donc je sais pas quoi vous dire. Très franchement, j'attends un peu les débats à l'Assemblée nationale.
Charlotte Dornelas, je vais vous donner la parole dans quelques instants. On se retrouve évidemment avec vous, 01 80 20 39 21, pour parler de ce sujet très sensible de l'aide à mourir. A tout de suite sur Europe 1.
Céline Dureau vous informe chaque jour de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Il est 13h48, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Europe 1 13h, la suite avec vous Céline Giraud. Et le débat continue avec vos deux chroniqueurs du jour, la journaliste au Journal du Dimanche, Charlotte Dornelas, et l'ancien juge d'instruction, Georges Fenech.
Et on prolonge le débat autour du projet de loi sur la fin de vie, l'aide à mourir, présenté ce matin en Conseil des ministres. Anne-Marie, qui nous écoute à Nancy, nous appelle. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Vous êtes aidante et vous souhaitiez vous aussi réagir puisque vous êtes concernée.
Alors moi je suis concernée de très près. Mon fils qui a 42 ans a la maladie de Charcot depuis maintenant 17 ans. Tout ce que je peux vous dire c'est que tout ce que j'entends autour de la fin de vie me choque assez.
Pourquoi ?
Jusqu'à présent la maladie de Charcot on en a très peu parlé. Donc maintenant, effectivement, il y a quelques malades qui sortent un peu, qui émergent, qui sont connus et qui permettent de médiatiser un peu cette maladie.
Charles Bietri, notamment, en ce moment.
Voilà, exactement. Voilà, il y a beaucoup de personnes. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on légifère sur un sujet qui est très délicat. On est vraiment sur du cas par cas. Et la personne qui est intervenue, qui est malade, a tout à fait raison.
Nicolas, oui,
en disant effectivement que le regard des gens peut changer, en disant, lui, il est malade, il est condamné à plus ou moins brève échéance, son devenir, il est entre les mains ou des médecins ou de la famille. Et pour moi, c'est intolérable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon fils, il a envie de vivre. On a un entourage exceptionnel autour de lui. On peut pas dire qu'on se sacrifie parce que c'est notre fils et on l'aime, mais on fait tout pour que tout se passe bien. On sait se faire entourer, on sait se faire aider. Et moi, ce que je demande avant tout au gouvernement, c'est de pas s'apitoyer sur ces malades-là. C'est de leur donner de leur vivant des conditions de vie dignes. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'existe aucune structure pour les accueillir. C'est-à-dire que des personnes qui ont 20 ans, que la maladie de Charcot ou une autre maladie dégénérative se retrouve avec des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans et qui sont en fin de vie. Imaginez un peu ce que ça donne pour leur morale, quoi. Mais c'est insensé.
Oui, effectivement, voilà. Anne-Marie, effectivement, votre témoignage est bouleversant. Charlotte Dornelas, voilà, là, on est dans un cas concret, la maladie de Charcot, qui est effectivement neurodégénérative, qui est donc concernée directement par ce texte de loi.
Et encore, parce que définir le moyen ou le court ou moyen terme, dans la loi. D'ailleurs, c'est une des questions du Conseil d'État sur le texte de loi. Mais
le pronostic vital est engagé à court ou à moyen terme.
C'est ça.
Mais
si conditions, et c'est très difficile de l'établir médicalement, notamment dans le cas de la maladie de Charcot et des maladies dégénératives de manière générale. Moi, ce que j'entends à la fois dans ce témoignage et dans celui de Nicolas précédemment, c'est un affaiblissement, on va dire, du terme de dignité qui est en effet très présent dans le débat public. Et vous voyez que des gens qui s'occupent de leur fils malade, d'ailleurs dans les deux cas, et cet homme qui vous parle de sa maladie, jamais la question ne se pose en fonction de la dignité de la personne que vous avez en face de vous. La dignité est inhérente au fait qu'elle est une personne en face de vous. Et après, il y a la question de la souffrance, de la maladie elle-même et de la mort qui est extrêmement lourde, qui est très difficile, et certaines fins de vie qui sont extrêmement difficiles. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans le témoignage de Nicolas initialement, c'est les deux temps de son témoignage. Il vous dit d'abord, moi j'ai deux cas, le mien et celui de mon fils. C'est deux maladies qui sont lourdes, deux fins de vie qui sont potentiellement extrêmement douloureuses, et je n'entre pas dans le cadre de cette loi. Donc d'abord, ça ne concerne pas tous les gens qui éventuellement auraient une fin de vie difficile et voudraient mourir avant l'heure, on va dire, par le biais de cette loi. Et que dit-il derrière ? Il vous dit donc si mon cas n'est pas concerné et mon fils non plus, ça veut dire que les conditions strictes sauteront les unes après les autres. Pourquoi ? Parce que la vraie question qui se pose aujourd'hui dans la loi, et c'est d'ailleurs ce que disait Georges, jusqu'à maintenant, vous pouvez soulager les souffrances au risque de la mort, par le biais de la sédation. Demain, on vous dit le vrai changement de cette loi, c'est vous allez donner la mort à un proche, un médecin, ou à vous-même, par le biais du suicide assisté. C'est ça le vrai sujet de conversation, de débat, on va dire, qu'il va y avoir dans cette loi. C'est ça le vrai basculement. Et si vous accordez le droit de tuer au nom de la liberté individuelle à choisir sa mort, alors pourquoi il y aurait des conditions ? qui décide de la liberté qui est autorisée ou pas.
Il reste la clause de conscience malgré tout hein, pour les médecins.
La clause de conscience pour le médecin qui ne voudrait pas poser cet acte-là. Mais il faudra la clause de conscience, c'est vrai déjà pour l'avortement. Quand vous l'utilisez, vous devez trouver quelqu'un qui fasse l'acte à votre place. Mais donc aujourd'hui, la question, la loi concerne toute la société. Donc est-ce qu'on donne le pouvoir à un tiers, en gros, de donner la mort aujourd'hui? C'est ça la question qui se pose. Et si on le fait aujourd'hui, on ne peut pas le faire en nous expliquant qu'on le fait de manière extrêmement responsable avec des conditions très strictes. Parce qu'il est évident qu'en raison de l'argument initial, ces conditions sauteront par la simple logique, on va dire, de l'évolution d'ailleurs de cette loi comme de toutes les lois sociétales de manière générale. Si la décision est individuelle, alors elle le sera de plus en plus, on va dire.